Bonsoir, bienvenue pour l'émission « C'était mieux maintenant », basée sur l'actualité musicale française hybride, trop soul pour le jazz, trop jazz pour la soul, chanson française, basée sur un constat qu'il y a un mouvement musical inclassable. On aime la soul, on aime le swing, on aime l'afrobeat, le jazz, le R&B, le funk et la langue française et la francophonie. Et ce soir, nous avons comme invité Monsieur Amen Viana. On est très content de te recevoir. Alors, on va commencer. Alors, Amen.
Yeah.
Présente-toi, s'il te plaît.
Alors, je suis Amen Viana, guitariste, chanteur, auteur, compositeur. Né au Togo, grandi au Togo. Et aujourd'hui, j'ai toujours un pied au Togo et un pied dans le reste du monde. Et donc, j'ai commencé dans un petit quartier de Lomé qui s'appelle Bekpota, qui est pour moi, qui est toujours ma source d'inspiration, puisque c'est l'endroit d'où je suis parti et c'est l'endroit où je retourne tout le temps. Et voilà, je fais partie de, on va dire que dans ma famille, la musique faisait partie de notre quotidien. Donc j'ai eu, moi je suis le dernier d'une famille de 6 enfants et j'ai eu des grandes sœurs, mes grandes sœurs, mes grands frères étaient toujours brancher musique, et donc voilà, j'ai un peu pris le relais quoi dans la famille, et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer de la guitare vers l'âge de 12 ans. Et en fait, le déclic, le fait de vouloir être guitariste vient du fait que j'ai vu Jimi Hendrix à la télé quand j'avais 9 ans, et donc ça a été le déclic. Et il y a eu Jimi Hendrix, il y a eu aussi Bob Marley. Et donc j'ai un peu baigné entre ces deux artistes qui sont toujours mes sources d'inspiration. Et plus ça va, plus je retourne à leur musique parce que ça m'inspire beaucoup. Et donc voilà, dès l'âge de 12 ans, j'ai commencé la guitare. Et donc au collège, au lycée, j'ai fait partie de mes premiers groupes. Et après, je suis passé, on va dire, pro, entre guillemets, à la fac, où j'ai commencé à faire des tournées avec des artistes du Togo.
D'accord.
Voilà, j'ai commencé par faire mes premières tournées à partir de la maison, à voyager, et depuis je n'ai pas arrêté jusqu'à ce jour.
Tes mentors,
oui.
T'as eu la chance d'aller visiter un peu leur lieu.
Bah
de...
oui, enfin je me suis dit que voilà, je devais un peu partir sur les traces de mes mentors, de mes idoles. Donc c'est comme ça que il y a 4 ans, je suis allé à Renton dans le cimetière où est enterré Jimi Hendrix, où j'ai été faire ma petite prière sur son mausolée et jouer un petit blues. Et aussi, il y a 3 ans, j'ai pu fouler le sol de séquence 6 Hope Road à Kingston dans la maison de Bob Marley pour aller faire une visite aussi, voir un peu le fief du...
du patron de
la légende, et pour comprendre un peu qui il était quoi. Donc voilà, pour moi c'est important de partir sur les traces de mes idoles, et ça me permet de boucler la boucle, comme on dit, parce que voilà, je suis parti, c'est des gens que j'écoutais dans une autre contrée, dans un autre pays qui est le Togo, et pouvoir faire le tour du monde et aller sur les traces de mes idoles, je pense que pour moi c'était essentiel de finir de faire cette boucle là, et voilà, j'en suis assez fier.
Et ces artistes, peux-tu nous parler de leur dimension, entre guillemets, africaine ?
Oui, tout à fait, puisque je suis né au Togo et j'ai découvert ces artistes-là en étant au Togo. Donc voilà, l'influence, leur influence qui est au-delà des États-Unis ou de la Jamaïque, c'est très important. Donc Bob Marley veut dire être très très important pour les Africains, parce que Bob Marley parlait beaucoup de l'Afrique.
Mmh.
Voilà, il voulait, je pense que ça, il disait dans ses interviews que c'est ça, la Jamaïque c'était un endroit où il était inspiré, il faisait de la musique, mais sa destination à lui c'était l'Afrique. Et je pense que dans sa projection artistique et humaine, c'est quelqu'un qui aurait atterri en Afrique, je pense, et qui aurait fait plein de choses en Afrique. Donc voilà. Et donc voilà, pour Bob Marley, son message était adressé, il se considérait comme africain. Et donc voilà. Et pour Jimi Hendrix, sa dimension africaine vient du fait que moi, quand je l'écoutais, j'avais quand même l'impression qu'il y avait une certaine africanité dans sa musique, surtout dans sa manière de jouer de la guitare rythmique. Pas quand il partait dans les solos avec le feedback, la distorsion, tout ça, mais quand il prend une rythmique, quand tu écoutes une chanson de Hendrix, il y a toujours un côté, c'est comme c'est mixé en séro, t'écoutes bien la partie rythmique, c'est, pour moi c'est très très africain, c'est une rythmique très africaine. Donc voilà, je me plais à dire que si Hendrix il avait vécu plus longtemps, il aurait aussi atterri en Afrique, il aurait peut-être joué avec des musiciens africains.
Voilà. Il l'avait fait, je crois, avec les Gnawa, voilà, au Maroc, à Essaouira.
Voilà, il avait été déjà aussi au Maroc. Il était déjà imprégné de la musique, de la culture africaine, en tout cas. Donc voilà, c'est moi, j'essaie de rallier un peu, de relier un peu, de faire un peu le pont entre ces deux artistes-là et de faire ressortir un petit peu le côté africain qu'il y a dans leur musique.
Ok, vous avez des questions, les gars?
Bah justement, comment il s'appelle Jimi Hendrix, il a jamais fait des concerts là-bas en Afrique?
Je crois qu'il a joué, il a fait un bœuf ou des bœufs, enfin des jams avec des musiciens Gnawa à Essaouira, mais il a jamais vraiment eu de live.
Non, il a pas eu tellement le temps quand même, parce que 27 ans, il a commencé ses albums, il avait 24-25. Ça a été explosif. Ouais. Il a fait trois vraiment gros albums studio. Et au bout de 3 ans, il n'est plus là. Donc, moi, je sais qu'il y avait des petites connexions, je crois, avec Miles Davis, mais ça, j'ai entendu ça. Et puis, Jimi Hendrix, c'est peut-être un des plus grands bluesman de la Terre aussi. Enfin, il y en a eu énormément, mais il a toute la culture des grands bluesman. Donc, je pense qu'au-delà de son jeu rythmique, je pense que tu as ressenti aussi son blues. Et le blues, il vient d'où? Le blues, il vient d'où? Mandingue et Afrique-Couronne, on y retourne toujours, quoi. Donc les deux connexions sont quand même logiques et sont super complémentaires, avec Bob qui a eu le message et l'autre qui a c'est vraiment dans la musique. Et voilà, je pense qu'avec les deux t'avais les meilleurs professeurs.
Je me dis que j'ai eu beaucoup de chance de les avoir, ces deux là, comme modèles. Donc voilà, ils sont toujours quelque part dans quand je compose, quand je m'inspire, ils sont toujours, enfin, ils sont pas loin en tout cas.
Ben, on ressent justement cette fusion des styles, le jazz, le blues, le rock, les musiques africaines, les sonorités africaines. Ouais. Tu chantes en Mina,
qui est une langue du Togo, parle du sud du Togo, mais qui est aussi parlée sur tout l'étendue du territoire. Et Mina, qui est ma langue maternelle.
Et tu as accompagné de nombreux artistes comme Black Eyed Peas, Angélique Kidjo, Tony Allen, Lisa Simone, Christophe Maé. D'ailleurs, tu joues sur le dernier album qui a été Grammy Awards
de Angélique Kidjo.
Voilà, tu joues dessus.
C'est un petit peu avec
David.
Oui,
David Donatien. Je l'appelle le patron, moi.
trois victoires de la musique, un Grammy. Et je crois qu'en France, il n'y en a aucun qui a fait mieux.
Donc respect.
Big up à David Donatien s'il nous écoute. Alors on a beaucoup décrit ta musique, le mieux c'est de l'écouter.
Parce que nous on connaît pas. On va découvrir en même temps que vous, chers auditeurs.
En espérant que le problème technique soit réglé. Donc c'est Brother de Amen Viana.
Sin miedo, yo en la peluque que
félicitations.
Merci.
C'est ça une patate, ça une pêche pas possible. Et avant que les poteaux ils te posent des questions, moi je voulais tout de suite savoir où as-tu enregistré et le processus, c'est-à-dire qui est-ce que c'est toi qui as réalisé, tu as joué avec d'autres musiciens, raconte-nous un peu.
Alors sur ce, en fait ce titre fait partie d'un album qui est pas encore sorti, mais le single déjà sorti. Et donc j'ai enregistré dans différents studios l'album. Celui-ci a été enregistré dans un studio à Saint-Ouen avec Laurent Siron, qui est un pote ingénieur, preneur de son, réalisateur, avec qui je travaille beaucoup sur plein de projets. Et sur ce titre, je joue de la batterie, je joue de la basse, je joue de la guitare bien évidemment. Et
tu chantes,
voilà. Et je suppose. Voilà.
Donc c'est toi qui réalises, tu récupères tous tes enregistrements, ouais. Tu bidouilles un petit peu après pour mixer, enfin pour agencer, ou déjà tout est fait, c'est live. Là c'est du A à Z, il n'y a pas d'édit.
Ah non, il n'y a pas d'édit, c'est-à-dire que tout est joué du début jusqu'à la fin, un peu de guitare. Il y a très très peu de
re-re. À l'ancienne, quoi.
À l'ancienne, voilà. C'est comme ça que je. Voilà, j'aime bien faire pour avoir un son, pas trop. Enfin, aujourd'hui, on se sait quand même de l'ordinateur, mais j'aime bien quand même aller à la route, quoi. Un petit
ouais,
peu,
ouais. Et puis, en tout cas, c'est le meilleur moyen d'avoir de la vie tout de suite. Voilà.
Comme Bob Marley, comme Jimi Hendrix à l'époque, ouais. C'était à la route. Hein. C'était une prise.
Une prise, ouais, une take. Seulement, ça répétait comme des malades.
Les mecs, ils rigolaient. Tout est là, le secret, il est que là. C'est ce que je dis à chaque fois à tous les gars, si tu répètes pas, tu peux pas être un tueur. Tous ces gars-là, si vous voyez le nombre d'heures qu'ils répètent, tu te pètes un câble. Ouais. Et à la fin, c'est pas pour rien qu'à chaque fois que tu vas les voir en live, tu fais waouh.
Wow. Bah oui, bien
parce
sûr.
Parce que les mecs, ils répètent. 8 heures, c'est minimum.
Ah ça, oui, ils faisaient que ça.
C'est pour commencer, quoi.
Ils faisaient que ça. Jimi Hendrix, il a eu 4 ans de carrière, mais il a laissé des milliers d'enregistrements, mais il faisait que ça. Il faisait hôtel, studio d'enregistrement, tournée,
practice.
Voilà, c'était que ça. Donc,
justement, quelle est ton éthique de travail par rapport à l'instrument?
Eh bien, ça dépend. Enfin, j'ai un peu changé, évolué au cours des années, puisque quand j'ai commencé, j'avais... alors l'histoire, quand ça a commencé dans le Bepota, le petit quartier de Lomé, c'est que on voulait tous jouer d'un instrument, mais on n'avait pas les moyens d'avoir des instruments. Donc à l'époque, je me rappelle, il y avait une guitare qui faisait le tour du quartier, quoi. C'est-à-dire que tu
qui
l'avais
tournait.
Pendant 2 heures, là tu tu lâchais plus, tu bossais, quoi. Et après l'autre venait la reprendre, et c'est comme ça. Après j'ai eu la chance d'avoir une guitare que m'a laissé mon frère, et donc voilà, j'ai pu avoir mon instrument à moi, jusqu'à ce que un jour enfin j'ai pu avoir les moyens de m'acquérir une guitare électrique. La guitare électrique, il était chez un vieux dans une espèce de galerie, et je passais devant
au Togo.
Okay. Et donc je passais devant, bon, c'était affiché le prix, mais bon, j'avais pas trop le moyen, j'étais encore au lycée, donc il fallait cotiser, quoi. Voilà, donc je passais régulièrement en priant que la guitare soit toujours là. Et le jour où j'ai eu assez d'argent, j'ai foncé voir le vieux. J'avais pas la totalité, bien sûr, mais bon, j'avais tellement peur de pas l'avoir. Et donc le vieux me disait, ouais, mais vous voulez jeune, vous me fatiguez, vous venez ici à chaque fois. Finalement, il a réussi, il a accepté de prendre l'argent, et je suis reparti avec la guitare. Et voilà.
T'avais quel âge là, à peu près là?
Alors, je devais avoir 18 ans. Voilà.
J'avais commencé avant,
vers 12 ans.
Ok, quand même, ouais.
Et donc voilà. Et après, à la fac, j'ai commencé par. Voilà, j'ai eu ma première guitare électrique à la fac. Et voilà, cette guitare-là, ça a été le vrai commencement. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai pu faire mes preuves dans les studios d'enregistrement de Lomé, en accompagnant des artistes. Et c'est à cette période-là aussi que je suis parti en tournée pour la première fois.
Avec quel artiste?
Avec, à l'époque, King Mensah, qui est un chanteur togolais très connu. Donc voilà, les années ont suivi. J'ai avancé professionnellement, j'ai rencontré plein d'artistes. Et donc
la musique que tu jouais, c'était comment tu pourrais la définir à cette époque, la musique de...
À l'époque, j'étais un peu musicien de studio, quoi. Donc, je faisais ça à Sideman pour tout le monde. Donc, voilà. C'était musique locale, c'était musique dans traditionnelle.
Dans tous les styles, mais plutôt musique traditionnelle.
Bah, musique traditionnelle, mais un peu comme je jouais aussi dans les cabarets. Voilà, j'avais aussi mon trio. On faisait des soirées dans les cabarets où on revisitait un peu toute la variété, quoi. Ouais. Qu'on entendait, qu'on écoutait à la radio et tout ça. Donc, voilà, on jouait pendant 4 heures, de 22h à 2h du matin, et on devait jouer un peu de tout, quoi. Que ce soit soukous, reggae, rock. Voilà, quoi. J'ai un peu fait ma formation comme ça. Et c'est tous les musiciens de ma génération, c'était un peu comme ça que ça se passait. Ouais, donc voilà.
Complet. Quoi.
Voilà. Et donc mon travail, c'est beaucoup basé sur l'écoute, puisque moi je suis autodidacte, j'ai pas fait d'école de musique. Donc voilà, on apprenait tout avec les cassettes, et c'était comme ça, on relevait pas l'oreille, quoi. Donc j'ai fait beaucoup de relevés. Et même encore aujourd'hui, quoi, je travaille beaucoup juste en écoutant, en relevant. Je vais beaucoup plus vite que en lisant la musique, quoi. Donc,
d'accord.
Voilà. Ça a été un peu ma façon de travailler. Et aujourd'hui, bon, voilà, à la demande, que ce soit, comme je continue pas à faire beaucoup de séances en studio, et donc ça peut être tout style. Donc j'ai un peu joué, on va dire, sur une centaine d'albums, quoi, tout style. Donc voilà, mon éthique de travail, ça reste toujours en étant à l'écoute de l'artiste, en proposant, en dans le sens de l'artiste, de ce qu'on me demande de faire, et après je rajoute ma touche personnelle.
Ok, ben justement, par rapport au choix de titre,
oui,
on va parler, on a déjà parlé plus ou moins de Jimmy,
oui,
l'impact qu'il a eu sur toutes les musiques, sur la soul, parce qu'il vient de là, il a accompagné les Isley Brothers, les Little Richard et compagnie, le funk, le rock. Et voilà, il a influencé les Funkadelic, les Clinton, les Norman Whitfield. À l'époque, les productions de Motown, qui étaient un peu plus lisses, on va dire. Quand Hendrix est arrivé, il a amené un petit peu ce côté psychédélique dans les productions de Norman Whitfield. Papa was a Rolling Stone, le côté distorsion, les effets, tout ça.
De la wah-wah et tout ça.
Voilà, l'effet de la wah-wah. Et justement, on va l'écouter sur une ballade qui s'appelle Bold as Love, qui figure sur l'album Axis Bold as Love, qui était son deuxième album. Bold as Love.
Anger, he smiles towering in shiny metallic purple armor. Queen jealousy in waits behind him. Her fiery green gown sneers at the grassy ground. Blue are the life-giving waters taken for granted. Quietly understand. Once happy turquoise armies lay opposite ready, but wonder why the fight is on. But they're all bold as love. Yeah. They're all bold as love. Yeah. They're all bold as love. Just ask the answer. But any flashes, trophies of war, and ribbons of euphoria. Orange is young, full of daring, but very unsteady for the first go round. My yellow in this case is not so mellow. In fact, I'm trying to say it's fighting like me. And all of these emotions of mine keep tolling me from giving my life to a rainbow like you. But I'm a the artist, he knows everything. Yeah, yeah, yeah.
Bold as Love. Yeah. Alors, parle-nous de ce titre.
Alors, Bold as Love, c'est le titre de, sur l'album Axis Bold as Love. Pour moi, je l'ai choisi parce que, pour moi, ça résume la maturité de Hendrix quand il est passé du premier album Are You Experienced à ce, celui-ci. Parce que sur cet album, on sent qu'il a vraiment évolué au niveau de l'écriture, au niveau de la texture des sons, comment il choisit les sons. Et cet album, moi, ça m'a beaucoup bouleversé parce que voilà, je découvrais une autre facette de Hendrix. Puisque moi, Hendrix, finalement, il est souvent présenté comme le showman qui brûle la guitare sur scène, qui fait des feedbacks, qui fait des trucs sur scène. Mais on a quand même, on oublie souvent que c'est aussi un poète. Parce qu'il est très, très, très fan de Bob Dylan, et de l'écriture et tout ça. Et sur cet album, en tout cas, pour moi, il a poussé les murs un peu plus loin au niveau du son, au niveau de l'écriture. Et voilà, cet album fait partie de des albums de chevet, quoi. Si je devais me retrouver un jour sur une île déserte, eh ben je l'emporterais, quoi. Donc voilà.
Gary, pour toi, l'impact d'Hendrix sur le funk, comment toi tu le définirais, toi quand, alors, que Funk à Tears
franchement, pour dire la vérité, je l'ai déjà dit,
oui.
Hendrix, c'est pas le mec qui m'a le plus fait flipper au point de vue du funk. Ouais.
Mais est-ce que tu sens son impact?
Bah, en fait, pour dire la vérité, celui qui m'a vraiment fait redécouvrir Hendrix, c'est Prince. C'est Prince, c'est bien sûr George Clinton avec tout ça.
Bootsy, tu l'avais dit. Bootsy, dans sa façon beaucoup, de dans sa façon
quand
changer.
Il écoute, c'est
la voix.
Je me suis rendu compte, en fait, il imite Jimi Hendrix. Il imite vraiment le gars, quoi. Et donc, en fait, pour dire la vérité, je suis pas un super fou de Jimi Hendrix. Je suis venu à Jimi Hendrix après parce que je voulais savoir d'où ça venait, tous ces gros délires de guitares, machin et tout. De toute façon, tout le monde, tu peux pas faire de la musique ou parler de musique sans à un moment passer par Jimi Hendrix. Donc, oui, Jimi Hendrix, c'est un très très grand monsieur, mais je le connais pas super bien. Voilà, pour dire la vérité. Je connais plus Buddy Williams que Jimi Hendrix, en vérité.
Ouais, enfin,
par exemple.
Ouais.
Bah justement, pour faire le lien avec la galaxie funk clintonienne, j'ai sélectionné le titre My Good Brain.
Ça, par contre, je connais très bien. J'ai fumé ça.
On va l'écouter et on va voir vraiment la filiation avec Jimmy à travers ce titre, My Good Brain.
Mother Earth is pregnant for the third time, for y'all have knocked her up. I have tasted the maggots in the mind of the universe. I was not offended, for I knew I had to rise above it all or drown in my own shit. Thank you.
Voilà. Le guitariste s'appelle Eddie Hazel. C'était vraiment le guitariste phare de Parliament Funkadelic du début. Après, il a été, il est décédé overdose, hein, comme à l'époque. Il a été remplacé par. Pardon.
Je dis que quand tu joues de la guitare comme ça, tu finis comme ça.
Ouais. Non, mais là, il y en a très peu qui ont réussi à passer les années 80, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, en l'occurrence, George Clinton, qui était le fondateur de tout ce mouvement, on se demande encore comment lui et il a survécu. Tous ses potes sont partis un à un, quoi. Gary Shay, tous.
Lui et Bootsy, je comprends pas.
Ah, et Bootsy.
Et Keith Richards.
Ah bah c'est pareil, non mais là tu vas aller plus loin. Mais,
les Rolling Stones.
Non mais là t'as des là t'as quand même des milliardaires, donc ça peut être compréhensible.
Ça peut expliquer là.
Millionnaire en tout cas, milliardaire peut-être.
Et ben justement, moi j'ai fait la corrélation avec un artiste que j'aime beaucoup, qui a commencé par le rap, le cinéma aussi, le chant, Childish Gambino.
Ah ouais.
Ok.
Qui a deux noms. Ouais. Il a son nom d'acteur. Quand il fait l'acteur, il a son nom civil.
C'est quoi ces noms ?
Je crois que
Glover.
Mais il n'a rien à voir avec le Glover qu'on connaît.
Ah, il y a eu beaucoup. J'ai regardé, je crois, sur Wikipédia. Vrai, c'est juste
la même nom.
Voilà. Et quand il chante, il s'appelle Childish Gambino et le titre qui suit, c'est The Night Me and New Mama Met. Thank you.
le vélo.
À l'époque, les fins.
Et oui, on était en train de parler. On parlait gros son, justement. Voilà, l'influence de Hendrix. Donc, ouais. L'autre grosse figure, c'est Bob Marley, on en a parlé. Oui. Alors, pourquoi tu as choisi ce titre, Lively Up Yourself? Dis-nous tout.
Alors, ce titre en particulier, parce que, au fait, c'est le premier titre qui ouvre l'album Natty Dread. L'album Natty Dread, c'est aussi significatif pour moi, parce que moi, j'avais un grand frère, Jeannot, qui était le Bob Marley du quartier, quoi. Lui, il était le Bob Marley du quartier, et il ne jurait que par Bob Marley. C'est lui qui m'a un peu injecté le virus Bob Marley. Et après, il a monté son groupe, et son groupe s'appelait Natty Dread. Et donc, moi, après, j'ai mon tout premier concert, quand j'avais 12 ans, je l'ai fait avec ce groupe-là, Natty Dread, le groupe de mon frère. Donc, c'est voilà, comme Lively Up Yourself fait partie de l'album Natty Dread, donc c'est, pour moi, c'est très, très important. Donc, c'est aussi un titre qui me rappelle une certaine période et qui aussi me reconnecte à mon parcours avec mon frère, avec le reggae, avec Bob Marley.
Ok, petite question, juste comme ça.
Yeah.
Est-ce que tu avais des dreadlocks à l'époque?
À l'époque, non. À l'époque, j'étais trop petit pour...
Et ton frère, justement?
Mon frère, il faisait des nattes. Il était parti pour okay. Ouais, il était parti pour faire des locks.
Parce que je me rappelle, il y a très longtemps de ça, j'ai discuté avec un des chanteurs de Mandrill. Qui m'expliquait qu'en fait, toutes ces époques-là, même chez les Noirs, les dreadlocks, c'était super mal vu et que c'était pas facile d'avoir des dreadlocks à cette époque-là. Voilà, c'était plus facile d'avoir un afro qu'avoir des dreadlocks. C'est pour ça que je voulais savoir.
Bah oui, c'est vrai. À l'époque, c'est vrai qu'avoir des dreadlocks, c'était un peu, tu vois, mauvais garçon.
Même en Jamaïque, hein, c'était pas terrible. Ah oui, même en Jamaïque, des dreadlocks, c'était pas terrible. Ah
ouais. Donc voilà, c'est l'histoire de ce titre-là, alors, avec Natty Dread.
Alors, moi, c'est marrant parce que je croyais que tu avais choisi ce titre, Lively Up Yourself, pour la version live en 78, qui est dans l'album Babylon by Bus, qui pour moi est un des plus grands solos de guitare, tout court. Tout court, c'est-à-dire, je ne dis pas juste que dans le reggae. C'est-à-dire, le solo de guitare de Lively Up Yourself.
C'est qui, c'est Al Anderson, guitariste?
C'est, alors justement, j'ai jamais su. Soit c'est Junior Marvin.
En fait, il y en a deux. Sur la version live, il y a deux solos.
Voilà.
Il y a Al Anderson qui fait un premier solo.
Voilà.
Et Junior Marvin qui fait un deuxième solo.
Alors moi, je crois que c'était l'inverse. Mais bref, cette version est extraordinaire. Et moi, avant d'apprendre la guitare, je faisais de la air guitare sur ce titre. Et ça a été enregistré à Paris, hein, en 78, et on entend même des voix parisiennes au pavillon de Paris.
Ah, justement,
Porte de Pantin, on en parlait tout à l'heure. Ouais, okay. Donc là, on a la version studio.
Ouais. Version studio.
On voit déjà qu'il y a beaucoup de guitares, mais alors la version live, c'est monstrueux.
Okay. Lively Up Yourself, Bob Marley.
Je ne m'avais n'était pas encore là. Yourself, and don't say no.
Lively Help Yourself, Bob Marley. Alors Gary, tu dis quoi? Qu'est-ce que t'en penses de
Bob Marley?
L'influence de Bob Marley sur toutes les musiques?
L'influence de Bob Marley sur toutes les musiques, bah, c'est la même que, enfin, dans un autre style de musique, c'est la même que James Brown dans son genre, c'est la même que, j'allais dire, les Beatles dans leur genre.
Ouais, c'est des monstres.
En fait, c'est des monuments, tu peux pas passer sans... si tu les connais pas, en fait, bah, tu passes à côté de la base. Voilà. Bob Marley, oui, c'est la base. Il n'y a rien à dire.
Il y a eu Bach, il y a eu Mozart, et puis après, ouais, on passe à Marley. Et c'est vrai, on peut mettre McCartney, Beatles, et puis
tu peux en mettre
pas mal, mais vraiment des monuments. Puis après, il y en a plein derrière. Ouais. Ouais.
Voilà. Alors, les influences de Bob Marley, c'était qui, c'était quoi?
Ben Bob Marley, il y a déjà le message, tu vois, le message qu'il est dans ses titres. Il y a aussi surtout le charisme du gars. Parce que à l'époque, dans les années 70, il fallait oser aussi aller au front, quoi. Donc il est allé au front, le gars, voilà, c'est pour ça, quoi. C'est non seulement la musique reggae, il est le prophète, il est le king du reggae, comme on dit. Mais moi, Bob Marley, quand je l'écoute, c'est plus le message et le charisme du gars. Donc voilà, après, c'est... Moi, par exemple, dans mon quartier où j'ai grandi à Lomé, à Bekpota, tous les musiciens, tous ceux qui jouent d'un instrument savent jouer au moins un morceau de Bob Marley. Il y a même un code dans le quartier. Si tu ne sais pas jouer Bob Marley, ne t'approche pas. Va là-bas, va loin. C'est-à-dire que toi, c'est pas possible. Quoi. Si tu es un musicien, tu ne sais pas jouer Bob Marley, va là-bas.
Reste quitte là.
Je te jure. Donc voilà, donc, ça nous a tellement marqué que c'est une référence. Quoi.
On est d'accord.
Non, mais il y a une légende aussi qui dit que. C'est pas vraiment une légende, mais. Qu'avec un t-shirt de Bob Marley, tu peux aller partout. Tu peux traverser tous les ghettos du monde.
C'est clair. Même en Afghanistan, mec. Et on ne t'aura pas de problème. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai, c'est un des seuls gars, moi je pense même le seul, qui est connu partout dans soi-disant ce qu'on appelle le tiers-monde. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas dans n'importe quel bled, genre inconnu du monde, on sait qui est.
Non, il y a quelqu'un qui m'a raconté à Madagascar, quand tu vas dans les petits villages, tout ça. Le gars était fan de Michael Jackson, donc il commence à chanter un peu. Et les mecs, ils le regardent et ils ne comprenaient pas ce qu'il faisait. Et après, il a commencé à parler de Bob Marley, il a commencé à chanter Marley. Là, tout le monde connaissait. C'est quand même incroyable.
On m'a toujours dit ça. C'est le gars, même dans les... Saddam Hussein lui-même chantait du Bob Marley. tout le monde.
Et moi, dans les médinas, au Maroc, dans une médina, les mecs, les vieux, les vendeurs et tout, ils chantent du Marley et tout, ils sont là avec les trucs et tout, les vendeurs, ils connaissaient les textes par cœur et tout.
Ouais, c'est incroyable.
C'est vraiment une musique fédératrice.
Ouais.
Par le message, par aussi la conception des chansons.
Et puis surtout par l'époque aussi, parce qu'on dit ça de Bob Marley, mais il y en avait d'autres à cette époque-là, parce qu'il ne faut pas oublier, c'était quand quoi. C'était la période des droits civiques, tout ça.
Bien sûr.
Donc c'était la période où les gens, ils en avaient marre
des inégalités.
Des inégalités. Mmh, donc bien sûr. Parce que Bob Marley, ok, gros musicien, mais aussi qu'il avait à côté un peu politicien. Mmh. Où ça, par rapport à la Jamaïque, par rapport à la Jamaïque, le gars, il a vraiment... Bah, il a dénoncé plein de choses, il a essayé de rassembler les gens. C'est d'ailleurs, ça n'a pas été facile pour lui. Bob Marley, moi, il me rappelle beaucoup le Nigérien.
Fela
au Nigéria. Ah, je trouve qu'à l'époque, il vivait à peu près les mêmes genres de trucs, peut-être en moins, j'allais dire moins grave, c'est même pas sûr que ça. Parce qu'au Nigéria, c'était chaud aussi pour...
Alors, le truc de Marley, c'était un mélodiste hors pair, donc il avait des... Il avait des chansons qui pouvaient toucher tout le monde et il pouvait parler de tout. Il parlait de la guerre, des inégalités, mais il pouvait parler aussi d'amour. Il a des gros tubes. Il pouvait vraiment parler de tout. Et puis il a fait aussi quelque chose de vraiment précurseur et je dirais même intelligent chez un musicien. C'est-à-dire qu'il avait une musique très très forte de la Jamaïque, qui était le reggae. Oh, alors c'est que commencé avec toute l'histoire, on va pas raconter l'histoire du reggae, mais comment en fait le rythme il s'est ralenti un petit peu avec les années, en partant du rocksteady et déjà calypso, rocksteady, ska, et puis là on commence à ralentir encore plus le rythme, skunk, ouais. Voilà. Et par contre, elle était encore un peu trop folklorique, c'est-à-dire il y avait beaucoup de cuivre, il y avait beaucoup de... et le gars il va chercher à transformer sa musique pour toucher encore plus. Et c'est là qu'il va commencer, dans certains albums, à mettre un peu moins de cuivre, à rajouter de la guitare, à mettre des claviers, un peu des clavinets qu'on entendait plus dans le funk, tout ça, etc. Et donc, c'est une recherche qui lui a permis...
Ah, ses codes.
Ouais, qui lui a permis de toucher encore plus. Et ça, je trouve ça changeant.
Justement, il a pris des codes de la soul, il a pris des harmonies du doo-wop. Très influencé par les Impressions et Curtis Mayfield, fan, et il a fait une sorte de voilà, il a créé quelque chose d'unique et de singulier.
Les harmonies étaient monstrueuses avec il a rajouté des voix de femmes aussi. Ouais.
Et justement la dimension sociale dans la soul, c'est l'un des précurseurs, c'était Curtis Mayfield justement, bien avant What's Going On de Marvin Gaye, qui a été le premier album de Motown qui avait une dimension politique et sociale, mais influencé par Curtis Mayfield qui commençait bien avant. Et Johnny Mitchell dit de Curtis Mayfield que c'est le plus grand songwriter américain.
Et comment il s'appelle, Bob Dylan pense la même chose aussi.
Exactement. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire une corrélation aussi avec un titre des Impressions qui s'appelle It's Alright. Au niveau des harmonies, il y a un esprit qu'on ressent aussi à travers le reggae
et sûrement aussi
la musique jamaïcaine.
It's Alright, c'est pas il y a un morceau que Bob Marley a repris les paroles d'un morceau de...
Voilà, c'est People Get Ready. On écoute It's Alright, The Impressions. Même la loi afro.
Say it's all right.
It's all right.
Say it's all right.
It's all right.
It's all right. Have a good time. Cause it's all right. Whoa, it's all right. We're gonna move it slow. When lights are low. When you move it slow, it sounds like a moan, and it's alright, whoa, it's alright. Now listen to the beat, kinda pat your feet. You got soul, and everybody knows that it's alright, whoa, it's alright. When you wake up sad like so many of us do, I'm a little soul, make life your goal, and surely something's gotta come to you,
and say it's alright,
Say it's all right. It's all right. Have a good time. 'Cause it's all right. Whoa, it's all right. Now everybody clap your hands. Give yourself a chance. You got soul, and everybody know that it's all right. Whoa, it's all right. Someday I'll find me a woman who will love and treat me real nice. Then my rose got to go, and my love she will know from morning, noon, and night.
And she's got to say it's all right.
Mm-hmm. Say it's all right. It's all right. Have a good time. 'Cause it's all right. Whoa, it's all right. Everybody clap your hands.
The Impressions.
Now give yourself a chance.
Un groupe mythique. Fantastique.
Curtis Mayfield.
Curtis Mayfield.
Un mot sur Curtis Mayfield.
Voilà.
Sa façon de chanter va constamment évoluer. Et j'ai envie de dire, pour moi, c'est lui qui a inventé
le falsetto.
Le falsetto, voix, alors mi-voix de tête, mi-pleine voix pour les spécialistes. On a un spécialiste qui est là qui pourrait nous expliquer, vous donner un petit cours. Et en fait, pour ceux qui connaissent, enfin, qui connaissent pas le nom, mais qui ont l'oreille, vous allez écouter Pharrell Williams, vous allez écouter
D'Angelo,
Prince, bien sûr. Et
Philippe Bailey, si
les Lee Kravitz, dès qu'ils utilisent un peu cette voix, ils imitent tous. Mais le pire vraiment qu'il a plagié, c'est vraiment Pharrell Williams quand il
compte. Oui, Pharrell.
Avec le peu de technique qu'il a fait, mais juste en donnant ce feeling là, ça a donné ça a donné ce son.
Ouais, ça a donné ce côté vieux,
son unique. Ouais, ça, cette sensibilité, cette façon de chanter unique.
Kravitz doit bien l'aimer aussi.
Ah
ben
bah oui, mais non, mais ça, carrément, il a fait son tube, comment il s'appelle, Over là, oui. Over, voilà. Ouais. C'est du Curtis Mayfield. Il n'y a pas de secret.
Voilà, et le titre qui suit pour arrêter de jouer des vieux et de faire.
Parce qu'on a passé des. C'est moi qui ai dit réveillez-vous un peu là. Pardon.
Le titre qui suit, justement, un titre actuel. Voilà, pour faire vraiment la filiation, c'est Skip Marley featuring la chanteuse de R&B. Heure.
C'est qui lui?
Skip Marley. Non,
Skip Marley, c'est petit-fils.
Petit-fils de Marley, c'est Marley. Le fils de Cedella.
C'est le fils d'un enfant de Bob Marley.
Voilà, ouais. Il a 24 ans.
Là, je lui dis quand il a fait ça.
Il a 24 ans. Marley, 24 ans.
Il a 24 ans.
24 ans.
Mais j'ai choisi ce titre pour le mélange, pour la ligne de basse d'ailleurs, qui est exceptionnelle, pour moi, qui est une très bonne ligne de basse et qui me fait penser un peu à Live Up Yourself. Et parce qu'on a ce featuring avec Heure, et c'est Heure qui joue la basse, qui joue pratiquement tous les instruments, mais c'est elle qui joue la basse sur ce morceau.
Heure.
Girl, I need to love you. Darling, I care for you more than my own self. Darling, I share with you all goodness and well. Said we can have just one night, or we can have one whole life if we play it cool. Yeah, we can have that one thing, or we can have everything if our hearts are true. Girl, slow down. Girl, let me love you.
Just looking in your eyes, you know I'm looking for more. And you're what I've been praying for. This kind of love don't come around like this. I'm not one to play around like this. It's so real, and I love how it feels. I love it when we slowly sway. I love it when we think the same thing. I love the way we move. Every day, ooh, I want you to.
c'était Skip Marley, le petit-fils de Bob Marley, featuring Her.
Ouais, ben, moi j'aime bien quand les petits jeunes comme ça, ils font de la musique qui emprunte, comme on a dit, la ligne de basse ou les, même l'harmonie qui faisait penser à un titre dont vous avez parlé. Vous allez le dire.
Be thankful.
Voilà. Voilà, exactement. Exactement. On vous le passera la prochaine, dans la prochaine émission. Et Heure, vraiment, je découvre encore, mais je suis impressionné par en fait sa culture. Sa culture, elle est complètement là, quoi, 22. Elle est complètement là, donc tout ce que les jeunes peuvent écouter et avoir pu imprégner. Mais elle a aussi une maturité musicale et une sensibilité qui m'étonne franchement dans ce qu'elle fait et dans ses choix, quoi.
Mais donc, quand voilà. T'as eu les bons parents, ça se passe bien.
C'est quoi. Qui ses parents?
Bah je sais pas, je les connais pas, mais ils ont dû écouter du bon son, c'est sûr.
Je
qu'ils ont
qu'il
écouté
sortir.
Du bon son.
Bah, ouais,
ah ouais, c'est clair, je veux dire, elle est
donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, les parents qui nous écoutent.
Ouais, elle a arrêté d'écouter la danse des canards.
Moi, le titre aussi que je voulais, on en parlait dernièrement, on disait que les Américains avaient du mal à faire du reggae. Pourquoi?
Parce que c'est pas leur truc.
Ouais, c'est technique. Les Américains, c'est des rois du on the one, c'est-à-dire le temps fort sur le 1. Alors que le reggae, c'est carrément le contraire, le temps fort, il est sur le 2. Donc, pour eux, c'est comme si c'était à l'envers. Quand ils découvrent ça, les Américains, dans les années 70, ils comprennent rien. Ils adorent, mais ils savent pas le jouer. Ils arrivent pas à comprendre. Donc après, ça a perduré. Ça a perduré, c'est pas dans leur culture. T'avais une autre explication?
Bah moi, moins moi je dirais plutôt que tout ce qui est un petit peu, alors je sais pas comment définir ça, mais tout ce qui est un petit peu Afrique, Caraïbes, Latino, je trouve qu'ils dorment là-dedans. C'est pas leur délire, ça. C'est vraiment, ils sont forts pour.
Et ils sont forts dans leur musique.
Dans leur musique, voilà.
C'est ça. Bah, et leur musique.
Et nous, comme nous, on a bouffé beaucoup de trucs américains, on arrive à rejouer leurs trucs parce qu'on a grandi avec ça. Eux.
Mais pas que ça. C'est pour ça qu'on peut jouer du reggae.
On a grandi avec plusieurs trucs et ça, moi je trouve que ça, c'est encore mieux. Je veux dire, mais c'est souvent. Bon, je veux pas. Si je veux le citer, une fois, il y a un pote qui me fait écouter un morceau sur. C'était sur un truc de Carlos Santana et c'était le batteur Dennis Chambers qui jouait. Et il essayait de faire un truc un petit peu caraïbe. Je te jure, c'était de la merde.
Non, c'est mort. Alors attention, depuis, ils ont corrigé.
Alors que Dennis Chambers, laisse tomber, c'est un gros batteur, c'est un tueur.
C'est un tueur.
Mais en train de faire des trucs un petit peu rythmés.
Ah, la syncope, c'est pas le truc. Leur truc, c'est vraiment le groove.
Même la musique brésilienne, il rame un petit peu.
C'est la syncope qui n'est pas. Mais par contre, aujourd'hui, ça a changé. T'as des groupes Grand Nation, tout ça, machin, qui ont grandi avec le. Avec le reggae jamaïcain et tout ça.
Mais après, pas mal de producteurs américains sont issus aussi de la diaspora caribéenne, africaine.
Mais on parle du début. Et là, maintenant, évidemment, c'est la mondialisation. Donc,
bien sûr.
On joue
absolument. Moi, je voulais passer un titre de Jasmine Sullivan. Je trouve que dans la nouvelle génération, c'est une des.
Alors, mi.
Mi reggae, mi son.
Non, mais mi nouvelle génération.
Oui. Mi nouvelle génération. Oui, mi nouvelle génération.
Elle est super forte, mais.
Par exemple, ma fille de 15 ans. Je viens de lui faire découvrir et elle adore, mais elle connaissait pas.
Ouais.
Elle connaît
il
plus.
Il y a beaucoup de jeunes qui vont pas connaître parce
elle
que
connaît
ça.
Plus
c'est l'époque de Missy Elliott, donc voilà, c'était 10-15 ans, 10-15 ans déjà. Ouais. Donc c'est pas vieux.
Voilà.
C'est pas jeune.
Mais elle a une voix incroyable, Jasmine Sullivan, Need You Bad.
Oh, yeah, baby, where you deal with? Hey. We come through a lot of things, you know. So what happened to you? You make one little mistake, you want done us.
New Jasmine, let's go.
If I had you back in my world, I would prove that I could be a better girl. Oh, if you let me back in, I would show never, never, never let you go. Searching for what was right before my heart.
Jasmine Sullivan, Need You Bad. Quelle chanteuse! Oh là 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 là, franchement, on sent vraiment, on peut dire, Lauryn Hill, Jasmine Sullivan, Heure.
Sauf qu'elle était là avant.
Ouais, ouais, ça fait, non, ça fait un bon.
Chronologiquement, ça fait un peu ça,
ouais.
Dans le style.
Ouais, ouais, carrément, bien vu. Et entre les deux. Ouais.
On disait là en off, Miss Education, Lauryn Hill. Voilà, c'est un album qui a. Ouais.
Qui est sorti en.
Qui a révolutionné.
98, mmh. Sorti en 98.
Il y avait le reggae, la soul, ouais. La pop. Mais qu'est-ce qui s'est passé après Lauryn Hill? Amen, t'as des nouvelles de Lauryn Hill?
Bah, à part le fait qu'elle soit toujours en retard à ses concerts. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est. Après, il y a tout ça qui gâche le talent de l'artiste. Mais en tout cas, heureusement qu'il y a eu l'album.
C'est qu'il y a un problème. Il y a un truc chaud.
Je sais que James Poyser a une part super importante dans cet album, au niveau de la réalisation. Commissioner Gordon aussi.
Lui, c'est plus dans les programmations. Dans les programmations, dans la tout réalisation.
Ça. Mais... Même John Legend a fait des pianos dans cet album. Il s'appelait encore John Steven. Mais tu sais, il s'appelait même pas encore John Legend.
Le truc, c'est que là, tu es en train de me citer que des gens qui sont connus. Moi, je te parle de ceux qui ne sont pas connus et qu'on n'a jamais. On les
crédité.
Jamais crédité.
Mmh, d'accord.
Ceux-là.
Voilà.
Mmh. Ok. Et là, il y a Lauryn, elle n'a pas été très sympathique, on va dire.
Mais c'est bon, il y a des polémiques. On fera une émission sur Lauryn Hill.
Sur les voleurs.
Voilà, c'est... Non, mais comment le processus de cet album, je l'ai étudié. Commissioner Gordon, j'ai été chez lui. J'ai carrément vu où il a programmé, où l'album a été fait. C'est incroyable parce qu'on a l'impression que ça a été fait dans un gros studio, machin, nanan. Les progrès, c'est dans le sous-sol d'une maison dans le New Jersey. Et c'est incroyable. Les musiciens sont venus. Il y a même des cuivres qui ont été faits là et tout. Donc, on fera une émission là-dessus, parce que voilà, il y a beaucoup de choses à dire.
Okay. Yeah. Troisième grosse figure, Prince Nikom Barga. Tu peux nous parler de lui?
Ouais, Prince Nikom Barga et le groupe Rockafield Jazz. Alors, quand je parle de ce groupe, c'est tout ce qui vient à l'esprit, c'est Sweet Mother, ce tube qu'on a écouté en Afrique. Et moi, bien évidemment, c'était la chanson de fête de nos parents, quoi. C'est-à-dire à Noël ou Nouvel An. On l'entendait pas beaucoup, mais quand on l'entendait, voilà, on mettait tout le monde d'accord. Et donc, on dansait dessus tout le temps. Et donc, ça fait partie de un peu dans la source aussi, dans laquelle moi aussi j'ai baigné, quoi. Tu vois,
comment tu définis sa musique?
C'était un mélange de high life et d'afrobeat, quoi, déjà à l'époque. D'accord. Parce qu'ils sont partis de. C'est un groupe à la base de Lagos, de Nigeria. Mais il y avait toujours des musiciens ghanéens qui traînaient à côté, quoi. Donc, c'était toujours, même on parle d'afrobeat. Tony Allen, père son âme, qui nous a quittés cette année, qui était le batteur de Fela, en fait, il est ghanéen, il n'est pas nigérien.
Ah, ça, je ne savais pas.
Tony Allen, il est ghanéen.
Ah, ça, je ne savais pas. Ah,
donc, il nous a fait un scoop, là.
Voilà, donc il a amené le halaf, ce qui a donné le afrobeat. D'accord. Mais c'est, l'afrobeat, ce n'est que l'évolution du halaf. Donc voilà, Prince Nikom Barga, voilà, avec le titre Sweet Mother, c'est toute une génération, enfin ceux de ma génération vont reconnaître tout de suite, mais c'était l'hymne de toute une génération.
Dans quelques clubs à Paris.
Moi, je me rappelle de la pochette de disque-là, j'hallucinais sur les bottes du gars.
Il avait exactement.
Encore pire que celle de Bootsy, c'est-à-dire que le truc-là, il est à au moins 40-50 cm du sol. Tu vois, il n'y avait pas de poisson dedans.
Pire que l'aquarium, mais... avec le poisson dedans, ouais. les bottes genre, là, en
elle
aquarium.
Elle m'avait fait halluciner. Et ce morceau-là, franchement, c'est un des morceaux qui représente le
aussi,
plus.
Ce qui est remarquable, c'est le riff de guitare là, qui commence le morceau, qui est légende. Pour moi, c'est un des plus beaux riffs.
Les plus grands guitaristes africains, c'est des aérois, des musiques.
Bah, parce que voilà, ils ont la science des notes.
Là, tu contredis pas, en tout cas.
Non, je contredis pas, puisque c'est tout ça, moi, je me suis beaucoup inspiré aussi. Quoi. Nous, on a beaucoup dansé sur ce qu'on appelait la rumba aéroise.
Voilà,
la
rumba.
Parce que voilà, mes parents écoutaient ça, parce qu'il y avait toujours une partie de guitare qui introduit de la chanson, le titre, et au milieu il y avait toujours une partie de guitare qui endiablé, qui faisait que le truc partait,
un riff toujours
quoi. Donc voilà, super bien construit, et c'est ça qui faisait aussi la beauté de ces tubes.
Et ben on va l'écouter, Sweet Mother, Prince Nikom Barga.
Suffer for me, yeah. Sweet. make you no cry again. When I was sleep, my mother would bed me. She go lie me well, well for bed. She cover me close, say make you sleep. Sleep me, my pikino.
Quel morceau!
Je me rappelle que je voyais des mamans courir dès que ça passait à la radio.
La puissance de la musique, c'est magique quand tu tombes sur un truc voilà,
et,
comme ça.
C'est Peter Gabriel qui est très fan de ce morceau-là.
Ah oui.
On a parlé beaucoup ouais, de ce morceau-là.
Bah justement, les anglo-saxons ont eu un gros revival envers l'afrobeat. Fait là.
Les années 2000.
Voilà, exactement.
Et aujourd'hui aussi, mais là, voilà. Là ce que tu parles, c'est il y a. Les années de,
même la pop actuelle, on appelle. Ce qui passe à la radio, c'est quoi? De l'afro-trap, on appelle ça.
Ouais. Aujourd'hui, elle est partout. l'influence de la musique africaine, okay. elle est partout. Même jusqu'à la variété, tu vas entendre un rythme que jamais il y aurait eu ça à l'époque. Voilà, que ce soit même Caraïbes, attention. Ouais. Parce que maintenant, il n'y a plus de frontières. Tu as des Africains qui mettent du bizouk et tu as la pop internationale qui peut mettre des beats de l'afrobeat. Et moi, je me rappelle juste pour terminer, parce que quand je parle là-dessus, je peux pas m'arrêter. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, il y a 15 ans maintenant, j'arrive là-bas pour la première fois. Et qu'est-ce qu'ils écoutent? Ils écoutent, il y avait un truc. Alors, il y avait Magic System, Big Up, Magic System, le premier. Un des premiers. Ouais, premier Gaou. Et le premier. Non. Pas le premier single, pas le premier tube africain, c'est pas vrai, mais en tout cas, énorme tube. Et ils écoutaient du zouk. Ils adoraient le zouk.
Alors, comment tu peux parler de cette influence boomerang entre l'Afrique et les Caraïbes? Comment tu peux expliquer?
Parce que la musique africaine des années 80, 70 a dépassé aussi les frontières. Quoi. Donc je pense que déjà, les Antilles, il y a toujours, les Africains écoutaient toujours les Antilles, les Antillais écoutaient toujours les Africains. Donc il y avait toujours ce va-et-vient là. Donc chacun prenait un peu de. Voilà. Et. C'est aussi pour ça que le zouk est finalement très proche de la musique africaine et le high life, tout ce mélange-là. Donc je pense que voilà, toute l'Afrique, la musique est un langage
universel
et ça traverse les frontières. Quoi. Ah, donc tant que c'est bon, chacun peut prendre et en faire sa sauce. Mais voilà, quoi. La base est toujours ici, quoi, le heartbeat.
Exactement. Ouais. Bah, justement, je voulais passer un morceau. Yeah. Qui s'appelle Water Get No Enemy, yes. Un morceau de Fela,
ouais,
qui a été repris par une sorte de All-Star US, et pas que US, aussi les fils de Fela, Femi Kuti, Macy Gray, Nile Rodgers, Royal Groove, et c'est un super titre de Fela repris par ce collectif, et après ce titre-là, Amen nous fera son titre Brother en live. Water get no enemy. Voilà, amen.
Oui, Fela aussi un grand qui a un peu poussé les murs avec l'afrobeat et c'est aussi un peu voilà, on a eu Bob Marley en Jamaïque, mais quand on parle de musique africaine, il y a aussi la musique et le charisme aussi de Fela quoi, en Afrique.
Et tu penses qu'il a subi aussi l'influence américaine dans sa musique?
Ben, je pense qu'il a su, il a été aux États-Unis, je pense qu'il a fait des études aux États-Unis. Il a compris que, enfin, en tout cas, je pense qu'il a pris exemple sur comment les Américains ont transformé la musique, et il a compris, en revenant en Afrique, qu'il fallait un son propre à lui, propre à l'Afrique, quoi. Donc, je pense que ça l'a aidé aussi à creuser un peu plus le son qu'il voulait.
Et même dans sa conception, le graphisme de ses pochettes.
Voilà, il fallait que ça illustre.
Pas que la musique.
Voilà, pas que la musique. Il fallait que ça illustre les faits, la situation politico-économique du Nigeria. Et donc, voilà, il a su bien mettre l'image sur la musique, quoi.
Et sur les pochettes aussi, parce qu'elles flashaient bien, les pochettes.
Voilà,
bien,
voilà.
Bien colorées, bien flash, quoi.
Ouais. Donc, fait là aussi un grand. Un très grand, quoi.
Alors, à maintenant, qu'est-ce que tu vas nous chanter ?
Ben voilà, j'ai ramené une guitare et Stéphane, tu voulais Brother ou un autre, ou qu'est-ce que...
Tu peux faire les deux.
Alors, Brother, on l'a déjà écouté, donc je vais jouer un autre titre qui s'appelle Gamesu. Gamesu, ça veut dire il est temps.
Eye wagbe atrozu tu kara na we Ame dodo ke si nonu Eye omenya nu si waju so woye Oyale fikene soma Nu vinye po me kavile nima A me do fole di jopo E yo menya be a foku jule nkoye Wano viole nu bla nui men E yo wopo swa si jo sok plataye Nenine lima ye Nu kenya tutu be mia woma Yata no vine tona nyae Zole do E nuleke Mime nya Afisi o mielo Zole do E nuleke Kame asu Ne mia jesi miano Oyale fikane soma Fofonye na jesido kwiwola Ame do fole jijopo Eyo menya be afoku jule nkoye Wano viole nubla nime Eyo wopo swa si jo sok plataye Zole do e nuleke Mimanya afisi o mielo Zole do e nuleke Game asu ne mia jesi mia no
Magnifique.
Merci.
Super belle chanson. Il nous reste un peu de temps. Tu peux nous faire Brother.
Alors, Brother, alors.
Voilà. Brother, dispo sur toutes les plateformes. Amen Viana, un artiste, à suivre.
Passionnément.
Sans modération.
E no akeye me gava Benyik pli wo mia wo deka Asila sima Oh brother Loku fukpe ko kata Si wo menyik pli wo mieto Kaka sobe degbe Oh brother Ezale donu leke Kamene sune nyanyo nyadukyo Elabe nubweke Tike koye nyawo Afi nyako jijo Nijile janyale po Mima vona deke o Dike koye nyawo Afina po jijo Nitile janyale po Mima vona deke o Dike koye nyawo Afina po jijo Nitile janyale po Mima vona deke o
Merci beaucoup. Amen Viana à suivre sur tous les réseaux sociaux.
Yes, Facebook, Instagram et mon site www.amenviana.com. Merci.
Nous sommes très très contents de l'avoir reçu. On a passé un très très bon moment.
Moi aussi.
Merci à toute l'équipe d'Armada, toute l'équipe technique. Et on se retrouve
très vite. Quand justement ?
Attends quand même. Je vais me présenter parce que toi, tu ne l'as pas fait.
Ah,
oui. Oui. Donc moi, c'est Gary. Je suis co-animateur avec Monsieur Quentin. Tu m'as oublié. C'est Eric
et
quand même.
C'était Badier, oui, pour vous servir. Et on se retrouve quand, du coup quand ouais,
c'est quand. La prochaine, c'est le 25.
Le 25, juste après Noël.
Non, 25 novembre.
Vous pouvez...
Mercredi 25 novembre, on a passé un très très bon moment.
On aura qui
Pour parler.
Surprise. D'accord.
Mais normalement, ce sera du lourd aussi.
Ça va être du lourd.
C'est toujours du lourd. Okay. C'était mieux maintenant.
C'était mieux maintenant.
C'est vraiment l'idée, c'est de faire un pont entre le meilleur du passé et le meilleur d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a plu, chers auditeurs. Yeah,
yes,
c'était un plaisir.
La prochaine, le 25 novembre.
À bientôt.
Intérêt là. Yes.
Ciao!